Doha, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Le Ghana est en campagne pour les présidentielles et législatives la semaine prochaine. Amnesty International s'inquiète des atteintes aux libertés au Tchad. L'Éthiopie accorde à l'ONU un accès humanitaire illimité au Tigré. Nous ferons également le point sur les différents vaccins contre le coronavirus dans le monde. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Élections présidentielles et législatives au Ghana le 7 décembre. Les 12 candidats n'ont plus que quelques jours pour mener campagne et certains électeurs ont déjà voté par anticipation. Abdourahmane Dia.
Il s'agit des militaires chargés de la sécurisation du scrutin, des journalistes déployés sur le terrain et du personnel électoral. Leur vote anticipé s'est déroulé mardi sans incident majeur selon la mission d'observation de l'Union européenne. 12 candidats sont en lice, mais on s'attend plutôt à un duel serré entre l'actuel président Nana Akufo-Addo, candidat à sa réélection, et son prédécesseur John Mahama. Ce dernier espère prendre sa revanche après sa défaite en 2016 face à Nana Akufo-Addo, qui était alors dans l'opposition. La campagne a été marquée par une polémique qui a éclaté après la démission d'un procureur anticorruption accusant le président Akufo-Addo d'avoir tenté de lui faire enterrer un rapport explosif sur les redevances minières du pays. La présidence a catégoriquement rejeté ces accusations. Les mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 sont respectées, mais selon les services de santé, près de 80% des Ghanéens ne portent plus le masque facial.
Des insurgés nous ont prévenus que nous allions tous être égorgés, raconte Abdoul. Un nom d'emprunt pour raison de sécurité, un agriculteur de 24 ans, rescapé du massacre perpétré par Boko Haram samedi dans le nord-est du Nigeria. Certains nous ont dit de fuir, je fais partie de ceux qui ont eu de la chance, confie le jeune homme, après le cruel assassinat d'au moins 76 de ses collègues, travailleurs agricole. Au Tchad, Amnesty International se dit inquiète de la multiplication des atteintes à la liberté d'expression et d'association, un phénomène qui a atteint une proportion inquiétante dans le pays selon l'organisation. Bagassi Koura.
Amnesty International cite le cas d'Alain Kemba Dida, coordonnateur du mouvement citoyen Le Temps et un des organisateurs d'un forum alternatif qui est placé en détention provisoire depuis lundi. Arrêté le week-end dernier dans les locaux de la radio privée FM Liberté à N'Djamena, Dida est inculpé pour trouble à l'ordre public et acte de rébellion, dit Amnesty. La lutte contre la pandémie de COVID-19 ne doit pas servir de prétexte pour limiter abusivement les droits des citoyens, a déclaré Titi Akbahé, chargé de campagne pour l'Afrique centrale à Amnesty International. L'organisation demande aux autorités tchadiennes d'abandonner toutes les charges contre Alain Kemba Dida et deux autres personnes arrêtées dans les mêmes circonstances et de les libérer immédiatement. Le 27 novembre, la radio privée FM Liberté a invité les initiateurs du forum alternatif. Des éléments de la police sont intervenus brutalement dans les locaux de la dite radio. Plusieurs personnes, dont des journalistes, ont été arrêtées avant d'être relâchées. Suite à ces événements, les syndicats de la presse ont organisé hier une journée sans radio qui a été amplement suivie à N'Djamena.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit préoccupé par les tensions au sein de la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo. J'appelle toutes les parties prenantes à résoudre leurs différends par le dialogue, conformément à la Constitution, a préconisé M. Guterres. L'armée et la police ont réitéré hier devant le président Félix Tshisekedi leur serment de rester apolitique et républicaine. Monsieur Tshisekedi a lancé le 2 novembre dernier des consultations politiques. Il doit annoncer maintenant ses décisions. Toujours en RDC, 3 pygmées et 1 militaire ont été tués dans des heurts dans le village de Kabamba, près du parc national de Kaoudzi-Bienga, dans la province du Sud Kivu. Selon Tade Midero, l'administrateur du territoire de Kabare, les pygmées auraient voulu récupérer de force des sacs de charbon de bois saisis par des militaires. Dans le même temps, le Parlement de la RDC examine un texte de loi pour garantir les droits des peuples autochtones. Le gouvernement éthiopien a accordé aux Nations Unies un accès humanitaire à la région septentrionale du Tigré suite aux demandes répétées de l'ONU pour délivrer de l'aide à des réfugiés érythréens. Nathalie Barge.
L'accord avec l'ONU autorise un accès sans restriction, continu et sécurisé du personnel et des services humanitaires aux populations vulnérables dans les régions gérées par le gouvernement au Tigré et dans les zones frontalières d'Amara et d'Afar. De premières évaluations en matière d'aide commenceront dès le feu vert des équipes de sécurité sur place. Le Tigré est privé de tout approvisionnement depuis le 4 novembre, lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale à l'assaut des dirigeants du Front populaire de libération du Tigré, qui avait défié le gouvernement central. 4 semaines de combats ont poussé plus de 45 000 personnes à fuir au Soudan voisin et ont fait de nombreux déplacés internes. Avant le conflit, environ 600 000 personnes, dont 96 000 réfugiés érythréens vivant dans 4 camps au Tigré, dépendaient totalement de l'aide alimentaire et 1 million d'autres personnes bénéficiaient également d'un soutien humanitaire, selon l'ONU.
En Algérie, un soldat a été tué lors d'un accrochage avec des islamistes armés à Djidjel, dans le nord-est du pays, a annoncé le ministère de la Défense. C'est le 5e militaire algérien tué dans des attaques islamistes depuis le début de l'année. Le Maroc espère lancer d'ici la fin de l'année une campagne visant à immuniser en 3 mois quelques 20 millions d'adultes contre le Covid-19. Le royaume chérifien a opté pour les vaccins chinois Sinopharm et britannique AstraZeneca.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Royaume-Uni est devenu ce mercredi le premier pays à approuver l'utilisation massive d'un vaccin contre le Covid-19. Il s'agit du vaccin de Pfizer et BioNTech, efficace à 95% selon les fabricants. Le point avec Mohamedou Oumfa.
Les autorités britanniques ont donné le feu vert à l'usage de ce vaccin après les contrôles effectués par l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé. Des contrôles qui ont montré que le vaccin est sûr, a rassuré le docteur June Rain, directrice de l'agence. Les vaccinations vont débuter la semaine prochaine en ciblant les publics prioritaires répartis en 9 groupes. La vaccination des femmes enceintes et des enfants n'est pas recommandée, sauf exception. Dès la semaine prochaine, 800 000 doses seront disponibles pour vacciner quelques 400 000 personnes jugées prioritaires. En Russie, le président Vladimir Poutine a demandé aux autorités sanitaires de commencer dès la fin de la semaine prochaine les vaccinations à grande échelle, précisant que les groupes à risque, médecins et enseignants, seront vaccinés en premier. Le vaccin Sputnik V, développé par le centre de recherche Gamaleya de Moscou, est actuellement à sa dernière phase d'essai clinique auprès de 40 000 volontaires. Ses créateurs affirment qu'il est efficace à 95%.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit optimiste quant à l'issue des négociations post-Brexit en cours avec les Européens, mais il est prêt à se satisfaire d'un no deal le 31 janvier prochain en cas d'échec, a indiqué Downing Street. Aux Pays-Bas, 3 personnes ont été blessées aujourd'hui au cours d'une attaque au couteau et d'un incendie dans un supermarché de La Haye. Pour l'instant, rien n'indique un motif terroriste, selon la police néerlandaise. Le gouvernement afghan et les talibans ont annoncé un accord sur les procédures des pourparlers, une question parmi d'autres qui empêchait jusque-là d'avancer dans les négociations de paix lancées en septembre au Qatar. Ces premières négociations directes inter-afghanes font suite à un accord historique entre les États-Unis et les talibans en février. À Hong Kong, Joshua Wong, l'une des figures les plus connues de la contestation à Hong Kong, et deux autres célèbres militants ont été condamnés à des peines d'emprisonnement pour leur rôle dans les manifestations de l'an passé. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a appelé les autorités à Hong Kong et à Pékin à mettre un terme à leur campagne visant à étouffer l'opposition. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Selon la BCAO, le taux d'inflation s'est établi à 3,4% en octobre dans les pays de l'UEMOA, le plus haut niveau depuis 2013. Le Burkina Faso a enregistré la plus importante inflation à 4,6% devant le Bénin et le Mali avec 4,4%. La Guinée-Bissau a eu le plus faible taux de la région, soit 1,1%. L'inflation a été tirée par la catégorie des produits alimentaires et boissons dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale, Abdoulaye Seck, a évoqué hier à Brazzaville la nécessité d'élargir le portefeuille de l'intervention en République du Congo pour les secteurs de la santé et de la diversification économique. La banque a débloqué 100 millions de dollars destinés à aider les couches sociales vulnérables, notamment pour l'inclusion des jeunes et l'autonomisation des femmes. La Banque populaire du Rwanda a créé un produit dénommé Insurance Premium Financing qui accompagnera les PME dans le paiement de leurs primes d'assurance. Elle propose des financements à rembourser sur 10 mois avec des taux d'intérêt abordables. Les bénéficiaires pourront utiliser le crédit pour payer les primes d'assurance.
Maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Les matchs de la 5e journée de la Ligue des Champions se poursuivent ce soir. Manchester United reçoit le Paris Saint-Germain. La Juventus Turin accueille le Dynamo Kiev. Ferencváros joue le FC Barcelone à domicile, tout comme le FC Séville face à Chelsea. La Lazio Rome se déplace en Allemagne pour y affronter le Borussia Dortmund. Le club Bruges accueille le Zénith Saint-Pétersbourg. Les Français de Rennes joueront les Russes de Krasnodar. Basaksehir accueille le RB Leipzig. Hier, Marseille a battu l'Olympiakos 2-1. Liverpool a fait le service minimum devant l'Ajax, battu 1-0. 0-0 entre le FC Porto et Manchester City. 3-2 pour l'Inter Milan face au Borussia Mönchengladbach. 1-1 entre l'Atlético Madrid et le Bayern Munich. Le Shakhtar Donetsk a battu le Real 2-0. 3-1 pour le Red Bull Salzbourg face aux Locomotives de Moscou. Ici aux États-Unis, la Fédération américaine de football est parvenue à un accord avec les joueuses de l'équipe féminine sur leurs conditions de travail dans le cadre du procès opposant les deux parties. Depuis l'année dernière, l'accord validé par une cour de justice de l'État de Californie porte sur les conditions de voyage, de logement, d'organisation des matchs et la question du personnel dévoué à la sélection. Il a été qualifié de moment important et bienvenu pour US Soccer et les joueuses de l'équipe nationale par la présidence d'US Soccer, Cindy Parlow-Cohn, qui a succédé au début de l'année à Carlos Cordero, démissionnaire. Cet accord ne porte pas cependant sur les revendications salariales de l'équipe féminine américaine qui réclame 66 millions de dollars en arriéré de salaire en vertu de la loi sur l'égalité des salaires et de la loi sur les droits civils dans le cadre d'une action en justice intentée début 2019 à l'instigation, entre autres, de la joueuse vedette des championnes du monde en titre, Megan Rapinoe. Toujours ici aux États-Unis, mais cette fois-ci en NBA, le pivot franco-américain Joakim Noah a été libéré de son contrat avec les Los Angeles Clippers et s'oriente vers une fin de carrière après 13 saisons passées en NBA, a expliqué son agent. Noah, 35 ans, se dirige très probablement vers la retraite, a reconnu Bill Duffy. Drafté en juin 2007 en 9e position, Jukes, son surnom dans sa famille, a rejoint la mythique franchise des Chicago Bulls où il a évolué pendant 9 saisons entre 2007 et 2016. Avec les Bulls, il a joué les playoffs NBA pendant 6 saisons de 2009 à 2014, atteignant la finale de la conférence Est en 2011, battu par Miami Heat 4-1 de LeBron James. Après son aventure aux Bulls, Il a évolué au New York Knicks entre 2016 et 2018, puis au Grizzlies de Memphis de 2018 à 2019. En mars 2020, il a signé un contrat avec les Clippers et a disputé la fin de saison dans la bulle sanitaire du Disney World.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Le Ghana est loué pour sa réponse au Covid-19 avec 323 morts, un nombre assez bas. Cependant, le total des cas a dépassé les 50 000 et le président Nana Akufo-Addo a averti les citoyens de rester vigilants. Les experts craignent une aggravation de la situation lorsque les partis politiques passeront à la vitesse supérieure dans la campagne pour les élections du 7 décembre. Un reportage de Stacy Knott à Accra. Le récit est de Mohamedou Oumfa.
Au Ghana, les services de santé estiment que plus de 80% des Ghanéens ne portent plus de masque facial, une baisse drastique par rapport au niveau de conformité antérieur. Le mois dernier, le président Nana Akufo-Addo a exhorté ses concitoyens à mettre les masques lors des rassemblements pour les élections du 7 décembre. Mais pendant les événements de campagne à travers le pays, tant pour le nouveau parti patriotique au pouvoir que pour le Congrès national démocratique de l'opposition, les partisans bafouent ces règles. Alors qu'elle attendait l'arrivée du président à un meeting en plein air à Accra, Cynthia Asiama s'est dite frustrée de voir d'autres partisans à visage découvert.
Certaines personnes ne portent pas de masque, elles n'écoutent pas. Sérieusement, elles n'écoutent pas leur président parce qu'il nous a dit que tout le monde doit porter le masque facial.
Certains organisateurs politiques prennent des précautions et tiennent leurs événements en plein air ou en ligne. D'autres organisent des marches de santé au lieu de rassemblements traditionnels. L'expert en santé publique Nana Kofi Kwaki estime que c'est un vœu pieux de croire que les grands rassemblements en plein air ne vont pas augmenter les risques, étant donné le faible respect de la distanciation sociale et du port du masque.
Oui, ils sont à l'extérieur, ils sont donc moins exposés que s'ils étaient à l'intérieur. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont en sécurité. Il ne s'agit pas d'un scénario à risque zéro. Avec des conditions plus aiguës autour du port de masque, de la distance et de la ventilation, vous vous attendez à voir une hausse de taux d'infection.
Il ajoute que la fausse croyance selon laquelle le COVID-19 n'a généralement pas d'impact majeur sur la santé a conduit certains Ghanéens à prendre plus de risques. Le journaliste sportif Gary Al-Smith tente de faire passer le message sur les effets à long terme puisqu'il a été lui-même infecté par le COVID-19.
Si votre croyance est que vous avez eu le COVID pendant 14 à 21 jours et après cela, tout va bien, vous apprendrez à connaître les réalités. Comme dans mon cas, j'avais constamment des maux de tête pendant 2 mois. Je ne pouvais pas faire 10 minutes de marche car après 5 minutes, j'étais complètement essoufflé. J'étais complètement fini.
Maintenant, il dit se sentir souvent comme un disque rayé quand il parle de COVID-19 qui n'intéresse personne parce que les élections ont pris le devant de la scène.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les Nigérians sont bouleversés par le massacre de 76 agriculteurs le week-end dernier dans l'état de Borno. C'est l'indignation au sein des populations. Les forces de sécurité et les groupes d'autodéfense du nord-est du Nigeria recherchent toujours des personnes portées disparues. Pourquoi le pays n'a pas encore réussi à vaincre Boko Haram alors que le gouvernement nigérian a déclaré à plusieurs reprises avoir vaincu Boko Haram? Le reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Le Nigeria est plongé depuis plus de 10 ans dans une crise sans fin dans le nord-est du pays. À l'insurrection djihadiste s'ajoutent des affrontements meurtriers et récurrents entre éleveurs, peuls et agriculteurs dans le centre du pays et les multiples enlèvements d'étrangers de Nigérians pour des rançons. Dans une vidéo, le groupe dirigé par Aboubakar Shekau affirme avoir tué des dizaines de villageois du district de Djéré près de Maïdougouri. 43 corps ont été enterrés dimanche et 33 autres ont été enterrés lundi, a déclaré Babakoura Abadjadou, le ministre local de l'information. Les recherches sont toujours en cours pour retrouver d'autres victimes. Pourtant, le gouvernement nigérien a déclaré à plusieurs reprises avoir vaincu Boko Haram. Mais pourquoi le Nigeria n'a-t-il pas réussi à vaincre le groupe djihadiste? La question est sur toutes les lèvres. Écoutons l'avis de cet expert en sécurité, Onyekachi Adekoya.
There's a constraint as to why the Nigerian military cannot deal with the issue of Boko Haram decisively.
Il y a une contrainte qui explique pourquoi l'armée nigériane ne peut pas faire face efficacement au problème de Boko Haram. J'ai répété cela à chaque fois que j'ai eu l'opportunité de m'exprimer. Nous savons où se trouve Boko Haram et comment le groupe opère. Ce que nous n'avons pas, c'est ce dont on a besoin pour résoudre le problème de Boko Haram. Il est aussi vrai que l'armée manque de logistique.
L'attaque de samedi dernier est considérée comme la plus violente contre les civils cette année. Les villageois ont enterré les corps de dizaines d'agriculteurs. Presque toutes les victimes ont été égorgées. La corruption au sein des services de sécurité dans la région et les conditions de travail difficiles de la police nigériane sont souvent pointées comme les maux qui minent la lutte contre les islamistes. Austin Brimo est membre de la Commission nationale en charge de la gestion des affaires des services de police.
Principalement, il est clair que la police nigériane est sous-financée et manque d'hommes. Parce que si vous avez, par exemple, une police de moins de 400 000 agents pour sécuriser près de 2 millions de personnes, vous comprendrez certainement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes au courant que nous n'avons pas assez d'hommes qui peuvent, pour créer un espace autour de nous, maintenir la paix.
Le ministre nigérien de l'Information et de la Culture, Lai Mohamed, soutient aussi que le manque de moyens logistiques pour mettre fin aux activités meurtrières du groupe Boko Haram reste un défi à relever.
Le Nigeria a fait plusieurs tentatives pour obtenir de l'armement nécessaire pour faire face à ce problème de terrorisme. Mais pour une raison ou une autre, nous n'avons pas reçu ces armes. Et sans l'armement adéquat, nous allons continuer à rester à la merci des terroristes.
La crise dans le Nord-Est a fait plus de 36 000 morts et au moins 2 millions de déplacés. Les agriculteurs sont devenus la cible, ce qui est aussi une menace pour la production alimentaire du pays. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En Éthiopie, le conflit dans la région du Tigré a poussé des dizaines de milliers de personnes dans des camps de réfugiés au Soudan, où les associations humanitaires ont du mal à fournir suffisamment de soins. Un médecin tigréen qui a fui les combats a ouvert une clinique dans le camp de réfugiés de Achaba à Al-Kadarif au Soudan. Reportage Naba Moïdine, récit Lionel Gaïma.
Dariello Gueoche, spécialiste en médecine interne, était un docteur bien connu dans la ville du Mora en Éthiopie avant qu'il s'enfuit au Soudan le mois dernier. Le docteur Dariello et d'autres de ses collègues s'occupent désormais d'une petite clinique dans le camp de réfugiés de Achaba, à l'est de la ville soudanaise de Kadarif.
Quand nous sommes arrivés, nous avons vu tout de suite qu'il fallait créer une clinique. Le bureau d'état d'Al-Kadarif nous a donné quelques médicaments de première urgence pour démarrer, mais nous n'avons rien pour traiter les maladies comme la tuberculose, le diabète, l'insuffisance cardiaque et le VIH. Il n'y a pas non plus de laboratoire pour le diagnostic.
Le camp de Achaba compte près de 16 000 réfugiés. Les femmes et les enfants représentent 70% des arrivées selon l'administration du camp. Beaucoup ont fui l'Éthiopie sans les médicaments dont ils ont besoin. Beran Gebretsadik, spécialiste en nutrition.
Beaucoup de gens ont fui Oumira, Madjidra et Barakat et l'ouest du Tigré. Il y a beaucoup de personnes séropositives, diabétiques ou souffrant de la tuberculose ou d'hypertension qui ont dû fuir au Soudan sans leurs médicaments à cause de la guerre.
De nombreuses organisations internationales et soudanaises tentent de pallier cette situation sanitaire fragile et demandent de l'aide à l'étranger. Nasir Hashim, employé du Croissant Rouge soudanais.
Nous avons remarqué que beaucoup de réfugiés souffrent de maladies aiguës ou mortelles. Nous envoyons un message aux organisations internationales pour qu'elles puissent nous fournir de l'aide et des équipements pour nous aider à soigner et contrôler ces maladies.
Le directeur du camp de Achaba, Mustafa Ansar, lance également un appel à l'aide.
C'est un afflux massif dans le camp. Nous avons près de 16 000 réfugiés alors que la situation économique est difficile au Soudan. Nous appelons les ONG de la santé à intervenir rapidement car les gens sont dans un état d'urgence.
Les autorités soudanaises ont signalé une diminution du nombre de nouveaux arrivants ces derniers jours en raison de la fermeture de certains passages frontaliers du côté éthiopien.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
République centrafricaine, la course de pirogues est le point d'orgue des célébrations du 1er décembre. Les Centrafricains en ont été privés pendant plusieurs années à cause des combats qui ravagent le pays depuis 2013. La tradition populaire a repris en 2018 sur l'initiative de Félix Yepassis Zembrou, journaliste à la VOA. Yacouba Ouedraogo l'a joint à Washington DC.
C'est quelque chose de d'abord sportif et puis de culturel. Parce que ça rassemble toutes les populations riveraines de la rivière Oubangui, hein, de l'amont et en amont de cette rivière-là. Donc, chaque année, après le défilé du 1er décembre sur l'imposante avenue des martyrs à Bangui, toute la population, tous les Banguissois se dirigent vers le fleuve pour assister à cette formidable course de pirogues.
On le sait, la course de pirogues s'est tenue jusqu'à récemment en 2013, où elle a quand même été interrompue suite aux événements, le coup d'État notamment. Comment les populations de Bangui et les Centrafricains en général ont vécu cet arrêt brusque?
Ça s'est interrompu en 2013 avec les événements que le pays a connus, avec l'entrée de la coalition Seleka. Et avec les Antibalakans aussi qui sont entrés en jeu. Donc depuis lors, il y a eu une accalmie. Et c'est exactement en 2018 que moi, j'ai pris l'initiative d'aller à Bangui. J'ai contacté les autorités, notamment le maire de la ville de Bangui, qui a donné son accord pour la relance de cette course. Donc, c'est en 2018 que nous avons relancé cette course. Depuis lors, l'année dernière, en 2019, il y a eu cette course à laquelle le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, en visite à Bangui, a eu l'occasion d'y assister.
Justement, oui. Vous résidez ici aux États-Unis, vous décidez en 2018 de rentrer à Bangui et relancer cette course de pirogue-là. Pourquoi?
Oui, parce que je ne trouvais pas ça normal que cette course qui a toujours fait partie intégrante des festivités, des manifestations du 1er décembre. Donc, ne pas organiser cette fête, c'est un manque à gagner total pour la population. Et c'était aussi une occasion, parce que j'avais placé cette course sur le thème de la paix. C'était aussi une occasion de fédérer, de regrouper de tous les Centrafricains, sans distinction, pour assister à cette fête dans la joie.
On sait que les Centrafricains, comment cette course de pirogue peut contribuer à amener la paix entre Centrafricains?
Oui, la paix en ce sens que ça, on oublie les guerres, on oublie toutes les actions qu'on a subies durant cette période sombre de l'histoire de la République centrafricaine. Alors il faut voir, parce que c'est comme un match de football. Hein. Vous voyez au stade, il n'y a aucune distinction, les gens acclament les concurrents, les footballeurs. C'est pareil, cette année il y a eu 20 pirogues qui ont été engagées dans cette course. Dans cette course, il y a plusieurs ethnies. Donc, ben voilà, on oublie tout et c'est la joie, c'est la fête, c'est l'allégresse, on oublie la guerre.
Qui sont ceux qui participent à cette course?
Généralement, ce sont des pêcheurs. C'est leur activité quotidienne. Souvent, ils ont l'habitude d'aller à la pêche avec leur façon de pagayer. On distingue deux types de piroguiers chez nous. Il y en a qui pagayent en position debout et d'autres qui pagayent en position assise. Et généralement, ce sont ceux qui pagayent en position debout qui ont l'avantage. Ce sont toujours ces pirogues-là qui remportent les 3, 4, 5 premières places.
Félix Yepassis Zembrou, joint à Washington DC. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal.
Joselle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagno, Idriss Fall à la rédaction en chef, au micro Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.